de la vie chrétienne, l'obéissance. Sans obéissance, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est ce passage que nous avions vu, hein, quand Saül a offert le sacrifice, Samuel tardait à venir, et puis Saül a offert le sacrifice. Et Dieu lui a dit qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice comme à l'obéissance. C'est le préfère l'obéissance que le sacrifice. Et c'est on peut faire beaucoup de choses pour Dieu, mais si on désobéit, dans le fond, eh bien, on n'a pas agi comme il le fallait. Donc, on avait des versets, hein, peut-être Matthieu 6, 24, si je vous dis le premier mot, nul. Où il aimera et haïra l'autre. Voilà, on ne peut servir. Tout le monde en arrive à se rappeler le bon verset. Il faut qu'on soit ensemble dans certains moments parce que sinon on n'a pas la totalité de la chose. Mais néanmoins, même si on ne se rappelle pas les mots, on sait en fait la chose. Et on ne peut pas servir deux maîtres. C'est, il y a deux, quand il y a deux choses dans notre vie qui dominent, c'est... voilà. Et puis Luc 6, 46, ça commence par pourquoi ? C'est le sermon sur la montagne aussi, hein, mais dans Luc. Pourquoi m'appelez-vous ? Voilà. Et puis Romains 6, 16... Alors, je vous le lis parce que c'est le plus difficile des trois. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est l'obéissance. Alors, je vous rappelle 6, 16. Romains 6, 16. C'est le... On n'a pas de... L'obéissance, ça nous amène toujours plus loin. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, mais quelqu'un avait écrit dans une Bible « Ce livre te gardera du péché, le péché te gardera de ce livre. » Et à partir du moment où il a offert des Bibles, il offrait beaucoup de Bibles, et à chaque fois il mettait ce verset dans la Bible. Parce que, en fait, si on marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien on est gardé du péché. C'est l'obéissance est une force. C'est pas que l'obéissance, on s'oblige à ne pas faire tomber dans le péché, mais plus on obéit à Dieu, non pas seulement on obéit à Dieu dans les choses où il y a une volonté révélée, c'est-à-dire par exemple prier, méditer la parole de Dieu. Si on obéit dans ces choses-là, eh bien le péché perd de son pouvoir sur nous. Tandis que si le péché prend du pouvoir sur nous, alors on a du mal à lire la Bible, à prier, à venir aux réunions, etc. Et beaucoup de chrétiens qui sont en échec dans leur vie chrétienne, eh bien, doivent voir pourquoi. Et peut-être c'est parce qu'ils ont toléré un péché, et le péché est venu parce qu'ils ont négligé un point d'obéissance dans leur vie chrétienne. Donc, c'est un peu ce que nous allons voir un peu tout à l'heure. Donc, le servir Dieu, c'est ce qu'on avait, on avait commencé la dernière fois. C'est le verset, hein, « Nul ne peut servir deux maîtres, on sert Dieu ». En fait, un chrétien, quand il est né de nouveau, il est au service de Dieu. Et on choisit qui on va servir. Et c'est une, comment dire, une pensée fataliste d'attendre que les choses se fassent toutes seules. Dieu ne nous demande pas d'attendre que les choses se fassent toutes seules. C'est au contraire, il nous dit d'agir. Par exemple, dans l'Ecclésiaste, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni volonté, ni dessein dans là où tu vas. Mais en fait, quand on a des ordres précis dans la parole de Dieu, des choses qu'il faut faire, et celui qui ne les fait pas, eh bien, c'est à son détriment. C'est lui qui en subirait les conséquences. Donc, c'est vrai que quand on choisit Jésus-Christ comme maître et Seigneur, eh bien, on désire lui plaire, on désire faire ce qu'il nous demande. Il dit, demeurez en moi, et c'est ainsi que vous porterez beaucoup de fruits. On demeure en Christ. Christ prend la première place dans notre vie. Si certaines choses prennent la première place, eh bien, et si elles sont maîtres dans notre vie, à la place de Christ, eh bien, nous jouerons des tours. On ne sera pas aussi. Les choses ne seront pas aussi simples que ce qu'on aimerait. Ensuite, Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 2 et 3. Bon, mais si vous l'avez trouvé, hein, vous pouvez le lire. Éphésiens, chapitre. Oui, tu veux le lire? Tu l'as trouvé? Ah non, non, c'est. Non, non, je pensais. C'est celui qui a le verset, il le lit. Éphésiens, chapitre 2, et les versets 2 et 3. Oui. D'accord.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur membre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un passé dans lequel nous vivions un peu n'importe comment. Nous étions dans le péché, dans la désobéissance, dans la rébellion contre Dieu. Et le verset dit le train de ce monde. Alors bon, un jour j'ai entendu un prédicateur parler du train qui nous emmenait en enfer. Alors, c'est pas du tout. Quand Paul a écrit, les trains n'existaient pas. Et ils étaient loin d'exister, ils n'imaginaient même pas. Donc, ce n'est pas le train de ce monde, mais c'est la manière de vivre de ce monde. C'est un vieux mot, c'est un emploi du 16e, 17e, 18e siècle. On disait, il mène grand train. C'est-à-dire qu'il avait une vie intense. C'était une manière d'être. Alors le train de ce monde, c'est la manière de ce monde. C'est la manière de vivre de ce monde. Donc c'est vrai que le mot, on pourrait le traduire d'une autre manière, ce serait plus mal. Parce que le train, maintenant, on a la gare à côté et on s'imagine plutôt ce qui est dans la gare que ce que la manière de vivre du monde. Donc c'est. Mais c'est un mot, avant que les trains existent, ce mot était employé et pour dire la manière de vivre, son standing de vie. On parlait d'un noble et tout son train. Voilà, tout ce qui était avec lui. C'est pour ça qu'un train, c'est des wagons accrochés les uns aux autres. C'est tout ce que ça implique. Voilà. On est noble et on avait tout ce qui impliquait la noblesse, c'est-à-dire les châteaux, les richesses, le roi, etc. Donc, ensuite, on voit aussi le prince de la puissance de l'air. Et disons celui qui est partout, c'est le son influence et on la ressent dans tous les domaines. Il essaye toujours d'influencer le monde et il l'influence bien même. Mais nous étions aussi comme eux et on pensait exactement de la même manière. Toutes ces choses-là, c'est les volontés de la chair, la convoitise, toutes ces choses, c'était notre vie passée. Et pour beaucoup de chrétiens, ces choses n'ont pas beaucoup changé. Ils se retrouvent, ils se sont nés de nouveau, et ils se retrouvent dans ces choses parce qu'ils n'ont pas fait de Jésus-Christ leur Seigneur, parce qu'ils servent d'autres maîtres. Alors, puisqu'ils servent d'autres maîtres, eh bien, il y a le péché qui domine dans leur vie et qui prend de la place. Donc, ces choses ne sont plus les mêmes, hein. C'est à partir du moment où on est né de nouveau, tout cela est changé. Nous appartenons à Christ et le monde n'a plus d'intérêt pour nous. Le péché ne doit pas dominer sur nous et il y a possibilité que ces choses soient un échec dans notre vie, que le monde ne puisse pas avoir de place, que le péché ne domine pas. Il y a des chrétiens qui disent « Oui, mais moi, je tombe dans ce péché, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai jamais pu me défaire de ce péché. » Parce qu'ils ne veulent pas vraiment. Si on veut vraiment, on a la force. On a la force. Ça, je peux vous le dire. C'est parce que finalement, on ne veut pas vraiment. On aime notre péché et on a un cœur partagé. On aime le Seigneur, vraiment, mais on ne l'aime pas assez. On aime aussi les convoitises de ce monde et le péché et les désobéissances. Donc ça, c'est la parole de Dieu nous dit clairement qu'on est affranchi du péché, affranchi. Donc si le péché a du pouvoir sur nous et si on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est que il n'y a pas une vraie marche d'obéissance dans notre vie chrétienne. Il y a des choses que l'on ne pratique pas ou que l'on ne pratique pas de bon cœur. On les fait parce qu'il faut les faire. Voilà. Beaucoup de personnes vont jamais faire le moindre effort pour quoi que ce soit. Lire leur Bible, c'est vraiment la dernière des choses qui leur passe par la tête. Hein. C'est où je me rappelle d'un quelqu'un, il sautait de son lit, c'était à l'Institut biblique, c'est pour ça que je l'avais bien vu. Il sautait du lit 5 minutes avant la dernière cloche. Et il s'habillait en vitesse, à la fenêtre, c'était l'hiver, il regardait dans son livre de méditation juste le premier verset, clac, c'était fermé, il descendait déjeuner. Il avait lu la Bible avant de faire quoi que ce soit. Mais comme il traînait au lit et tout cela, eh bien, on avait une heure. Ça sonnait à 6 heures. Et à 7 heures, ça sonnait pour le petit déjeuner. Donc, si on se levait à 6 heures, on avait le temps de tout faire, se laver, s'habiller, lire la Bible, prier. En une heure, tout ça, on pouvait le faire facilement. Et bon, je le faisais. Mais quand j'arrivais pour poser ma Bible et partir pour le petit déjeuner, eh bien, lui, il sautait du lit. Et évidemment, il n'avait pas le temps de lire sa Bible. Après, la journée commençait. Et il y avait des multitudes de choses qui arrivaient, et il n'avait pas le temps. Il avait juste lu un verset, et je me demande même s'il avait bien retenu. Mais il y a des choses qu'on fait par obligation, parce qu'on se dit, ben, ces choses-là, c'est la règle, il faut le faire. Alors ils ont rempli leur devoir, leur mission, mais ça ne suffit pas. Quand on fait ces choses, on les fait par amour pour Dieu. On les fait parce qu'on aime Dieu, parce qu'il est notre maître. Si on les fait parce qu'il faut les faire, c'est pas lui qui est notre maître. C'est dans ces cas-là, eh bien, c'est le sommeil, c'est des multitudes de choses que l'on peut faire qui font qu'on se lève tard et qu'on a du mal à lire la Bible après. Donc, dès que l'on obéit à Dieu, eh bien, il y a des choses qui se clarifient. Elles deviennent plus claires. Plus simple, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça, c'est clair. C'est le premièrement, c'est Dieu qui est le premier servi. C'est pas lui qui a le reste de notre journée, mais c'est lui qui est le premier servi. Et je connais des gens, hein, ils vous disent, moi, vous savez, j'arrive pas à me lever le matin, je suis pas capable, je ne peux pas. Je sais bien, il y a des personnes qui lèvent tôt et des gens qui sont couchent tard, etc. Mais il faut faire en sorte que notre amour pour Dieu domine certaines difficultés. Et nous avons un corps physique qui nous tient en bas et qui est lourd à porter. Il a des fatigues, il a des envies, il a des ceci, il a des ça, mais on n'est pas obligé de suivre tout ce qu'il dit et tout ce qu'il nous demande. Et ça, pour beaucoup de chrétiens, c'est un problème. Donc, ensuite, il y a notre point, c'est pour demeurer en Christ, on obéit. C'est en fait la vie d'un être humain n'a pas de sens sans Christ. C'est Christ qui donne le sens à notre vie. Notre monde vit, là on passait devant sur les quais, il y a un monde fou. D'habitude, il n'y a pas tout ce monde-là. Quel est le sens de leur vie? Partent en vacances. Et ils ont réfléchi, ils ont planifié. Je connais des gens qui font un crédit pour partir en vacances. Moi, c'est qu'on fasse un crédit pour acheter une voiture ou pour changer des éléments de cuisine, des choses utiles. Mais pour partir en vacances, ça, c'est on économise pour partir en vacances. Mais on ne fait pas un crédit. Il y a des choses. Ça, c'est mes idées sur les crédits et ces choses-là. C'est vous achetez une maison. Si vous rarement quelqu'un a tout l'argent nécessaire pour payer la maison. Donc c'est bien, on fait un crédit. Et on s'endette, c'est logique, disons. C'est pas recommandé, mais il y a une certaine logique. Mais vous allez prenez votre voiture pour aller au travail et tout cela, la voiture tombe en panne, vous êtes obligé de la faire réparer, vous n'avez pas les moyens, et il y a des personnes qui prennent un petit crédit pour faire réparer ou pour acheter une nouvelle, parce qu'ils disent, elle tombe trop en panne, je suis plus fiable, je suis utile pour mon travail. Donc là, ça se justifie, dans une certaine mesure. Mais pas pour aller en vacances. C'est là que les choses, ce sont des maîtres. Ils ne pensent qu'à ça. Et ils vont se priver de choses essentielles parce que ces choses-là se passent en premier. C'est leur maître. Et alors, avec de pareils maîtres, eh bien, on ne peut pas s'attendre à ce que l'on ait une vie propre. Ce sont des passions de ce genre. Après, je peux vous dire, les vacances, j'ai rien contre, hein. Je voudrais jamais que les vacances aient mal. Mais des vacances de quoi? Vous prenez des vacances de quoi? Le Roussillon est une région de vacances. Il y a des millions de personnes qui passent par le coin et qui partent en vacances là, ou qui y passent. Nous avions des vacanciers qui venaient au culte le dimanche. Mais ce n'était pas la grande majorité. Parce qu'il y a des milliers de chrétiens qui partent en vacances de l'Est, du Nord, de l'Ouest, de Paris, du Centre, et ils vont dans le Sud pour passer des vacances. Mais les églises ne se remplissent pas tant que ça. Pourtant, les églises de ces régions se vident en été. Mais elles ne remplissent pas beaucoup les villes de vacances. Parce que les chrétiens partent en vacances. Ils sont en vacances. Et en vacances de tout. Même le dimanche, ils ne vont pas au culte. Ils ne s'inquiètent même pas si sur leur lieu de vacances, il y a un culte. Je connais des gens qui ont, ont. Ils ont voulu changer de travail et ils ont cherché un travail. Là où il disait, il y a une église, et il y a une bonne église, une église qui respecte la parole de Dieu. Alors ils disent, oui, si je choisis un endroit pour aller travailler, pour changer de lieu, alors je choisirais plutôt une ville où il y a, ou à proximité, il y a une ville où il y a une église fidèle à la parole de Dieu. Alors ça, c'est une bonne raison. Mais beaucoup se disent, eh bien, je gagnerais plus d'argent. C'est la vie est moins chère là-bas. Mais avez-vous une église? Est-ce que vous pouvez vous réunir avec des chrétiens? Est-ce que dans nos calculs de notre vie, disons, on planifie beaucoup de choses, eh bien, des mutations et les. Bon, parfois les mutations, c'est difficile, mais même. Quand certains fonctionnaires, ils choisissent, ils ont plusieurs endroits qu'on leur propose, eh bien, les chrétiens, et j'ai connu des chrétiens, ils disaient, ben, je préfère cette ville plutôt que celle-là, parce que là, il y a une église. Ils avaient recherché et voulu savoir s'il y avait une église. Donc ça, parce qu'ils veulent demeurer en Christ et marcher avec Christ, eh bien, ils font attention à des détails, des choses que les gens du monde vont dire, bon. Vous rigolez, après tout, le salaire est meilleur à tel endroit plutôt qu'à un autre. Alors on préfère aller à cet endroit-là parce que c'est meilleur. Mais en tant que chrétien, eh bien, il y a des choses que on se dit non, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est ce que dit le Seigneur Jésus, de demeurer en lui. On demeure en lui et on choisit l'environnement dans lequel on va pouvoir demeurer en lui. Donc, il y a la lecture de la Bible, il y a la prière, il y a se joindre à une église, être un chrétien fidèle et zélé pour le Seigneur. Ça, c'est la marche dans l'obéissance et c'est demeurer en Christ. Et cela implique parfois... Comme dit quelqu'un, je n'ai pas réussi ma vie aussi bien que j'aurais pu la réussir parce que j'ai été chrétien. Mais il vaut mieux réussir sa vie spirituelle que sa vie matérielle. C'est peut-être que vous n'aurez pas une immense maison, peut-être que vous ne changerez pas de voiture tous les 2 ans ou 3 ans, mais vous aurez l'essentiel et vous aurez ce qui vous suffit. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui est important, c'est de demeurer en Christ. C'est pas les choses matérielles. Et les choses, voilà. Donc si on se fixe simplement sur les choses de ce monde, eh bien, on ne portera pas forcément du fruit pour Dieu. On va porter du fruit pour le monde, et on va pouvoir dire, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai ceci et cela, et c'est les fruits du monde. Mais si on marche avec le Seigneur, on n'a peut-être pas ces choses, mais on porte les fruits pour Dieu. Et c'est ça l'important. Après, le reste... Si vous l'avez, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Et je peux vous dire, tous les chrétiens ne sont pas millionnaires. Il y a des chrétiens millionnaires. Oui, il y en a. Mais la plupart sont pauvres. Et la plupart, leur vie n'est pas facile. Parce qu'ils ont fait des choix dans leur vie. Ils auraient pu être riches. Après tout, pourquoi pas? C'est en étant un petit peu malhonnête, en choisissant une carrière plus facile, en ayant, etc., etc., mettant le Seigneur bien sûr de côté, en allant contre leur conscience, eh bien ils auraient pu être plus riches. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est parce que le Seigneur est en premier. On demeure en Christ, on veut marcher avec lui. Donc on cherche à porter plus de fruits. C'est Jean 15, 5. C'est celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Évidemment, les fruits dont il est question, ce n'est pas une maison, une voiture et un compte en banque. C'est la vie chrétienne, c'est la paix, c'est les âmes, c'est l'encouragement des personnes, c'est simplement la bonne odeur de Christ qui est autour de nous. Et même des fruits que l'on ne peut même pas comptabiliser, parce que notre vie, parfois, elle a une influence. On ne se rend même pas compte, mais il y a des gens qui avancent parce que notre vie avance. Et ils se disent, j'ai envie d'être un chrétien comme celui-là ou celle-là. Et puis on ne le sait pas, ils ne viennent pas nous le dire, heureusement d'ailleurs. Mais ils avancent parce qu'ils voient notre vie chrétienne et il y a du fruit. On ne se rend même pas compte que l'on a du fruit. Mais il y a des choix aussi. Pour porter du fruit, il y a des choix. Et le choix, c'est l'obéissance. On fait le choix de Christ et le Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Et si vous prenez la peine de regarder ce que le Seigneur nous dit et de conformer votre vie à ce qu'il vous dit, eh bien vous verrez que les choses changent. Alors bien sûr, le péché n'aimera pas ça. Votre chair, vos appétits intérieurs, vos passions n'aimeront pas ça, évidemment. Mais après tout, à qui on doit plaire ? C'est à Christ, pas à nos passions. Et puis ensuite, il y aura des prières exaucées. Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est quand quelqu'un marche fidèlement avec Christ, eh bien Christ peut répondre à ses prières. Parce que c'est des prières qui sont faites pour plaire à Dieu, pas des prières pour satisfaire des passions. C'est Jacques qui disait que vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez mal dans le but de satisfaire des passions. Et il continue, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous ? Il y a des prières, je dis heureusement que Dieu ne les exauce pas. Parce que par les prières, on pourrait tuer la moitié de l'humanité et la moitié d'une autre partie mourrait de faim et l'autre, parce que évidemment, on prie pour que le soleil, il y ait du soleil partout, et qu'on puisse aller en vacances et qu'il y ait du soleil. Mais s'il y avait autant de soleil que les gens disent, eh bien, on serait dans des déserts. Heureusement que Dieu ne exauce pas les prières pour le soleil, parce que heureusement qu'il y a de la pluie. Il y a peu de gens qui prient pour la pluie. Il y a beaucoup plus qui prient pour le soleil. Mais je dis, mais ne priez pas pour des choses comme ça, à moins qu'il y ait une vraie raison. Oui, on a une sortie, on prie pour que nous ayons un beau temps, etc. Bon, là, je comprends. Mais après, prier pour le soleil, parce que simplement, c'est plus pratique d'aller au travail avec le soleil. Je vous dis, évitez ce genre de prière, parce que c'est des prières égoïstes. C'est des prières insensées. Ne priez pas pour des choses comme ça ne vaut même pas la peine. C'est prier pour que le Seigneur donne le temps qui et surtout remercier le Seigneur pour le temps que vous avez. Il pleut, ben rendez grâce à Dieu. Je me rappelle d'une jeune fille, elle était en vélo, elle allait au travail, et ce jour-là, il pleuvait des cordes. Et après, quand elle est venue à l'église, elle disait, et je chantais fraîche rosée, parce que je me disais, qu'est-ce que j'aimerais que le Seigneur me remplisse de son Saint-Esprit autant que j'étais mouillé. C'est parce qu'elle se disait, si j'étais rempli du Saint-Esprit comme je suis mouillé maintenant, vraiment ma vie chrétienne serait tout à fait autre chose. C'est voilà, je me dis finalement, ben, y a une bonne réaction. On se réjouit des choses, mais quand on prie, eh bien, c'est des prières sensées. On prie pour le bien des autres. On ne prie pas pour le malheur de quelqu'un. On prie pour le bonheur des gens, pour qu'ils arrivent à connaître le Seigneur. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire. En tant que chrétien, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous les êtres humains. Il n'y a pas une personne qui ne veut pas. Et notre ennemi, la personne qui nous fait du mal, Dieu veut la sauver aussi. Et ben, on a du mal à prier pour l'ennemi et de prier pour du bien. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On doit prier une prière que le Seigneur Jésus aurait priée. C'est pour ça qu'il exauce nos prières. Parce que c'est une prière qu'il aurait priée lui. Alors donc, on peut dire, le Seigneur Jésus aurait dit Amen à ma prière. Mais s'il ne peut pas dire Amen, c'est même pas la peine de demander cette chose-là. Hein. Vous avez des prières inexaucées dans la Bible. C'est par exemple le Seigneur Jésus qui demandait que la coupe s'éloigne de lui. Il a prié que cette coupe s'éloigne de lui. Elle ne s'est pas éloignée. Dieu n'a pas exaucé sa prière. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est une des personnes qui n'a pas eu une prière exaucée, c'est le Seigneur Jésus. Et il a prié, mais pour lui, l'obéissance au Père dépassait tout. Il voulait obéir complètement. Donc, le Père voulait qu'il donne sa vie pour nous, même si ce n'était pas la chose la plus agréable pour lui, et j'imagine que c'était très difficile, eh bien, personne n'aurait aimé être crucifié, il l'aurait fait avec joie, mais il était soumis à son Père, et il voulait lui obéir, et il a obéi. Même si il était prêt à ce que la prière, eh bien, n'est pas exaucée, c'est ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est le cas d'une prière inexaucée. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui n'a pas été exaucé. Voilà, on va s'arrêter là parce que le temps tourne vite.